Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Anne-Marie Boucher du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. On aura plus tard à l'émission l'espresso et l'espresso allongé où il sera question des médicaments connectés. Notre invité en début de deuxième demi sera Alain Labonté qui va nous parler de santé mentale, d'électrochoc et aussi de l'organisme Les Impatients où il s'implique. Alors tout ça dans le menu de Folie Douce cette semaine. On commence en chanson avec Lumière Bleue et c'est de Nour. Bienvenue à Folie Douce.
Soyez malin, peu enclin, radin ou épicurien, vous êtes à Folie Douce.
J'ai le plaisir d'accueillir mon invité qui est donc Anne-Marie Boucher. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue à Folie Douce. Tu es responsable aux communications et à l'action sociopolitique du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec.
Alors,
c'est intéressant de te recevoir ici. C'est pas la première fois, mais on va parler de bien belles affaires.
Oui, tout à fait. Mais merci de nous recevoir. C'est toujours un plaisir là, de venir vous voir.
C'est intéressant de te recevoir. D'abord, on va situer c'est quoi le RRASMQ, donc le regroupement. Qu'est-ce que ça fait au niveau du Québec, la santé mentale?
Le regroupement, en fait, c'est un regroupement d'organismes communautaires qui œuvrent à partir de la philosophie alternative en santé mentale. Il existe depuis 1983. Et ce qu'on fait depuis ce temps-là, c'est vraiment de mettre en contact les organismes communautaires qui travaillent à partir de l'alternative. Il y a de la formation, on collabore sur des projets de recherche, il y a de l'action sociopolitique aussi, donc on est toujours dans une visée de transformation sociale. Et finalement, il y a des communications diverses, donc on produit depuis 5 ans un journal qui s'appelle le Journal Ailleurs et Autrement, qui est diffusé à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale. Et on produit aussi une revue d'analyse qui s'appelle L'autre espace. Donc, on vise à produire du contenu de réflexion, d'analyse autour de la question de la santé mentale. Et je dirais, tout ça se fait à partir de la philosophie, de la vision alternative en santé mentale. Donc, c'est fondé sur une alliance entre les personnes utilisatrices, dans le fond, et les intervenants. Donc, tout ça se fait toujours en alliance sur un pied d'égalité entre les personnes « aidantes » entre guillemets et les personnes « aidées ». en sachant que les personnes aidées sont aussi aidantes et vice-versa. Ouais. Mais disons que c'est toujours sur ce pied d'égalité-là qu'on se fonde pour faire tout ce qu'on fait.
Il y a plusieurs regroupements, il y a plusieurs associations, il y a plusieurs... mais je pense que vous avez chacun votre couleur. Mm-hmm. Puis il y a personne qui se pile sur les pieds, en fait. On se rend compte toujours que chacun est utile. Donc, par rapport aux autres, disons que le côté alternatif, je pense que ressort beaucoup, je pense, dans votre regroupement.
Oui, je dirais qu'on... Je ne voudrais pas me tromper, mais en fait, on est un des rares regroupements, si on veut, qui est fondé vraiment sur une philosophie et non pas sur un type de pratique. Par exemple, quand on pense à l'AGID, qui est le groupe d'intervention en défense de droit, c'est des organismes qui œuvrent en défense de droit. Donc, c'est une pratique. Si on pense, par exemple, au réseau Solidarité itinérance, c'est un réseau où c'est des organismes qui travaillent auprès d'une population ciblée, qui est les personnes itinérantes.
Oui.
Dans le cadre du regroupement des ressources alternatives, on a vraiment des centres de crise, des ressources d'hébergement, des ressources en logement... Il y a des centres des groupes d'entraide, des centres de jour, des centres de soir, tout ça. Puis tous ces groupes-là ont en commun de travailler avec des personnes qui s'identifient comme vivant ou ayant vécu un problème en santé mentale, ouais. Et aussi s'identifie ou se nourrit à partir de la vision alternative en santé mentale. Ouais. Donc, c'est vraiment cette vision-là qui nous réunit.
Oui. C'est difficile aussi de faire passer, surtout quand on parle d'alternative, souvent les gens vont dire, ben l'alternative, c'est un peu comme les gens, bon, on veut pas de médicaments, on est comme contre tout, mais mm-hmm. C'est pas ça. C'est de trouver des façons, faut vendre la santé mentale aussi. Puis c'est ce que vous faites bien aussi. On voyait une belle campagne là, à l'automne 2017, où vous avez eu, je pense, un bon impact dans les médias, entre autres.
Oui, tout à fait. Bien, c'est vrai que l'alternative, même si on a des racines dans l'antipsychiatrie et dans le mouvement des survivants de la psychiatrie, disons, l'alternative, c'est pas un mouvement qui est opposé à la médication. Oui, on porte une vision critique face à la médication, notamment face à l'industrie pharmaceutique, comment est-ce qu'il y a énormément de lobbyisme de leur part pour faire en sorte qu'il y ait surprescription des personnes qui arrivent en état de souffrance. Mais c'est sûr qu'on n'est pas dans une vision manichéenne à l'égard de ça. Donc, on sait que oui, parfois, la molécule chimique va venir en aide aux personnes, mais il y a besoin d'avoir d'autres solutions pour les personnes. T'sais, souvent, on dit que la pilule est une solution, mais ce n'est pas la seule qui doit être apportée. Puis, ce qu'on constate présentement dans le réseau, c'est que de plus en plus, il y a un manque de soutien à tout ce qui est psychosocial, tout ce qui est intervention, tout ce qui est psychothérapie. Donc, les gens vont se faire offrir la médication, mais par la suite, il n'y a pas nécessairement la deuxième étape qui leur permettrait vraiment d'aller mieux. Donc, je dirais que c'est un peu le rapport à la médication.
Ouais. C'est ouais. Ça le grand manque. Puis depuis toujours, c'est, mm-hmm. c'est décrié comme quoi il y en a des services, mais il n'y en a pas assez.
Non,
puis les services
suffisant.
Qui sont là sont pas assez financés pour justement mm-hmm. permettre aux gens d'assurer un suivi. Là.
Oui. Puis l'effet que ça a, ça crée une inégalité face à la santé mentale. Dans le fond, si on est riche ou pauvre, on n'a clairement pas accès aux mêmes ressources.
Ouais.
Évidemment, une personne qui a un bon revenu va pouvoir aller en psychothérapie, va pouvoir faire une démarche à raison d'une séance par semaine pendant 15, 20, 50 ans, si elle veut. Mais quand tu es à très faible revenu, c'est pas vrai que tu peux t'engager dans une démarche à 100 $ par semaine sur des années.
Non.
Donc, ça limite beaucoup le travail psychologique qui peut être fait par une personne. C'est sûr, dans les ressources alternatives en santé mentale, il y a de ce type d'approche-là qui est proposée. Donc, il y a certaines ressources qui se veulent des ressources de traitement où il y a des démarches thérapeutiques individuelles qui sont parfois proposées. Mais l'aspect collectif est super important aussi. Donc, des ateliers de groupe, mais aussi de l'action pour agir sur les circonstances collectives, les conditions sociales dans lesquelles les gens se trouvent.
Ouais.
Je reste un peu les couleurs là, qu'on porte.
Oui, si on parlait du site j'ai-une-histoire.com, un beau site d'ailleurs, qui a été lancé quelque part en...
Ça a été lancé à l'été 2016.
16 quand même. Oui. Et puis, c'est un site qui est accueillant, qui montre que les gens ne sont pas une étiquette, ne sont mm-hmm. pas seulement une maladie.
Oui.
Tout le monde a une histoire. On ne devient pas un client, si on veut, ou une personne qui a eu des problèmes de santé mentale par choix. C'est souvent parce qu'il y a une histoire derrière ça, il y a plusieurs facteurs.
Mm-hmm.
Donc, est-ce que tu peux nous parler du site, j'ai une histoire.com?
Le site J'ai une histoire, c'est un site qu'on a construit avec le comité mobilisation ou regroupement des ressources alternatives. Donc, c'était des personnes qui sont membres de ressources, des personnes qui sont aussi intervenantes dans des ressources qui essayaient de réfléchir à la meilleure façon de rejoindre le grand public, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut rejoindre des gens comme ça qui ne nous connaissent pas. On s'est dit, si on distribue des affiches, des tracts dans le grand public, la chance qu'on a aurait, c'est que les gens voient l'adresse du site Internet, j'ai-une-histoire.com, et s'y rendent. Puis là, à ce moment-là, ils ont accès à davantage de contenu quand ils sont de retour à la maison. Donc, ce qu'on a voulu faire là-dessus, c'est mettre du contenu, informatif sur la question de la santé mentale, et c'est du contenu qui est vraiment ciblé sur les déterminants sociaux de la santé. Donc, ce qu'on voulait, c'est que les gens sortent d'une vision purement biomédicale de la santé mentale, donc de dire, par exemple, la maladie mentale est une maladie comme une autre, mais se demandent, ben, quand une personne se retrouve à souffrir, se retrouve même à entendre des voix, à vivre des situations, dans le fond, très, très intenses, c'est pas juste question de débalancement chimique, ou c'est peut-être même pas question de débalancement chimique. Il y a toutes des circonstances dans sa vie qui l'amènent à vivre des très grands stress, puis à se retrouver dans cet état-là. Donc, on voulait pointer les circonstances qui sont aux racines d'un problème en santé mentale pour amener une réflexion sur d'où ça vient, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire collectivement, socialement, pour faire en sorte qu'il y ait moins de personnes qui se retrouvent en très grande souffrance, comme c'est le cas actuellement.
Oui, et le site a déjà des gens qui ont raconté leur histoire, mais est ouvert aux autres.
Oui.
C'est ça qui est la beauté, c'est que peut-être on veut inspirer le plus de monde possible pour justement avoir une variété, puis montrer qu'il y a toutes sortes de personnes déjà plus âgées, plus jeunes, dans différents milieux, différentes classes sociales, si on veut.
Oui, tout à fait. Cette partie-là, c'est comme une partie blog un peu, si on veut, sur le site. C'est une partie où les gens partagent leur histoire de vie. Et puis là, vraiment, c'est des citoyens de toutes sortes. Il y en a qui fréquentent les ressources, donc qui ont entendu parler de la campagne par une ressource alternative en santé mentale. Mais il y a aussi des citoyens qui ont pu nous entendre à la radio ou nous voir à la télé, puis qui partagent à ce moment-là leur histoire. Donc, ils remplissent l'histoire dans le formulaire. C'est de façon anonyme. On demande seulement d'indiquer de quelle ville ils sont. C'est que question d'illustrer un peu toute l'étendue de ce qui peut être vécu. Et dans le fond, on partage ces histoires-là. Puis ce qu'on espère, c'est que les gens puissent lire ces histoires-là et être sensibilisés. Et peut-être même parfois se reconnaître. On croit beaucoup dans l'entraide, dans l'alternative en santé mentale. On pense que l'entraide, le fait de partager nos histoires, c'est quelque chose qui aide à sortir de l'isolement puis à se relier aux autres. Donc, c'est un peu une façon de proposer cette ouverture-là à l'autre là, qu'on met sur le site Internet.
Le regroupement aussi, le RRASMQ, le regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec, tient une journée de l'alternative en santé mentale depuis quand même plusieurs années.
Oui.
Peux-tu nous en parler aussi, Anne-Marie?
La journée de l'alternative en santé mentale, ça fait 5 ans qu'on la tient. Donc, c'est quelque chose qu'on a lancé à l'occasion de notre 30e anniversaire en 2013.
Oui.
En 2013, il y avait un gros événement de 2 jours autour du 30e anniversaire du regroupement. Et dans le fond, ce qu'on voulait faire par cette journée-là, c'est s'approprier d'une certaine manière la Journée mondiale de la santé mentale pour faire parler de l'alternative en santé mentale au Québec. Parce que ce qu'on constate dans les ressources, c'est que quand les gens arrivent en demande d'aide ou arrivent parce qu'ils ont besoin d'un lieu d'appartenance, ils ne connaissaient pas l'alternative. Avant, ils n'en avaient jamais entendu parler. Puis pour eux, c'est comme un choc joyeux. Ils se disent, mais mon Dieu, ça m'aurait tellement aidé de connaître ça avant. Puis j'ai pas eu accès à cette vision-là, à cet angle-là de vue sur ma propre histoire. Mm. Donc, ce qu'on voulait, c'est de rendre ça plus visible, de faire en sorte que les gens connaissent l'alternative et puissent aller vers leurs ressources ou puissent cheminer dans leur propre réflexion sur la question de la santé mentale.
C'est ça que l'automne dernier, je pense qu'il y a eu un bel événement au métro Mont-Royal. C'était bien dans le cadre de cette journée-là.
Tout à fait.
J'ai vu les photos, j'ai vu les différents mots qui étaient écrits. C'était très touchant. C'était, je trouve que c'était très, très humain.
Oui.
Puis je ne sais pas comment la réaction a été. Les gens qui étaient à proximité du métro Mont-Royal, comment ont-ils réagi?
Généralement, l'accueil est très bon. Je dirais que les gens s'arrêtent, prennent le temps d'écouter. Il y a des prises de parole. Cette année aussi, on a tenu des activités de porteurs de parole qui visent à recueillir une parole citoyenne. Donc oui, il y a une prise de parole dans un sens, mais on reçoit aussi la parole des citoyens, on l'affiche dans l'espace public.
Ouais.
Donc c'est vraiment ce dialogue-là qu'on souhaite faire émerger. Puis c'est toujours très, très positif, le contact, parce qu'on sent que, contrairement au bureau du médecin, on n'a pas toujours le temps de livrer notre parole, de se faire écouter. Bien, dans un contexte comme ça, les gens sont vraiment en mode ouverture, en mode partage, en mode écoute. Puis ça fait vraiment... C'est vraiment une super belle expérience humaine.
J'ai trouvé les photos belles parce qu'il y avait les messages sur différents papiers de couleur, puis c'était attirant, mais il y en avait beaucoup. Oui, c'est de dire, il y a des messages, puis si tu te mets à les lire, c'est pas rien, là, c'est pas des banalités, c'est quelque chose qui vient vraiment de la personne, puis c'est un exutoire presque, c'est sûrement thérapeutique jusqu'à un certain point.
Oui, ces paroles-là sur les papiers de couleur, c'est justement les paroles qu'on avait récoltées par l'activité du porteur de parole. Les ressources alternatives vont animer des porteurs de parole dans leur petite ville, dans leur village, dans leur communauté, et l'idée, c'est que ces paroles-là soient récoltées et on les ramène au regroupement, puis il y a un comité qui va analyser ces paroles-là. Puis notre but, c'est de faire un peu un état de situation de la santé mentale des Québécois et à partir de ça, de se mettre en mode peut-être revendication politique en 2018. Oui. Donc, c'est un projet qui est en cours présentement et qui va aboutir en 2018.
Je n'ai pas posé cette question-là au départ. Il y a combien d'organismes qui sont membres du regroupement au Québec?
Une centaine d'organismes, grosso modo.
C'est vraiment partout, là, un peu partout, bien placé dans la...
Dans 13 régions,
si je ne me trompe pas. 13 régions du Québec, c'est quand même quelque chose. Vos bureaux à vous sont à Montréal, évidemment.
Oui, on est dans Centre-Sud, à Montréal.
Les gens qui voudraient en savoir plus, que ce soit le site J'ai une histoire, que ce soit le regroupement lui-même, savoir un peu vos activités, est-ce qu'on peut donner les coordonnées Internet?
Oui, tout à fait. Bien, il y a le site de la campagne de l'alternative, donc le www.jayunehistoire.com. Donc, j'ai une histoire toute dans un mot.
Ouais.
Ensuite, il y a le site Internet du regroupement, qui est le www.rrasmq.com. Et on a aussi une page Facebook, donc le regroupement des ressources alternatives en santé mentale, où on publie beaucoup d'articles sur les déterminants sociaux de la santé, sur la vision critique, la vision alternative en santé mentale, et où il est possible aussi de nous contacter par ce détour-là.
C'est intéressant d'interagir, puis de voir les photos, tout ça, ça reste que c'est dynamique, ça vend bien la santé mentale aussi, là, c'est intéressant.
On espère que ça ouvre, ça déstigmatise, puis ça ouvre à mettre ça en discussion davantage.
Oui, merci beaucoup Anne-Marie Boucher, donc responsable aux communications et à l'action sociopolitique du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec, d'avoir été des nôtres.
Ça m'a fait plaisir.
Bonne continuité, au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.
Je t'ai vu tracer le long du paysage une ligne des aimés qui détruit son langage. Et quand tu chantais plus fort dans ton silence, je voyais les larmes couler toujours à contresens. Mais quand les saisons attendront ton retour, ce sera le vent qui portera secours. Et si la terre est chaude, et si la pluie te noie, raconte-moi qu'on puisse trembler ensemble. Et si le jour vient pas, souffle qui s'étouffait, des courses vers le vide, ton rire qui soupirait. Si tu mets le cap vers tes auras sans trouble, je serai le phare qui te guidera toujours. Mais quand les saisons attendront ton retour, ce sera le vent qui portera secours. Et si la terre est sombre, et si la pluie te noie, raconte-moi qu'on puisse trembler ensemble. Et si le jour ne vient pas, dans la nuit est perdue, raconte-moi qu'on puisse crier tout bas, crier tout bas. Une ligne des aimés qui détruisent ton langage. Et quand tu chantais plus fort dans ton silence, je voyais les larmes couler toujours à contresens. Et si la terre est sombre, et si la pluie te noie, raconte-moi qu'on puisse trembler ensemble. Raconte-moi.
Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604. Le 514-990-9604.
Nous voici maintenant rendus au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte.
Salut Yves.
Bonjour Ghislain Malo.
Bonjour.
Aujourd'hui, tu nous amènes encore un beau sujet, les médicaments connectés qui a fait parler beaucoup de lui. En tout cas, assez controversé.
Oui, c'est controversé. C'est un article écrit par Mme Nathalie Devilliers, qui est professeure de droit à Grenoble. Oui, les médicaments connectés. On est rendu, c'est quasiment de la science-fiction,
ouais.
Mais on est rendu là.
On est rendu là.
En faveur ou contre, ou elle donne les pour et les contre?
Alors, tu vas voir qu'elle va donner les pour et les contre.
On va expliquer aux gens aussi c'est
quoi. C'est controversé.
Ça, ouais.
En fait, c'est des médicaments qu'on prend, et les médicaments vont envoyer des informations à ton médecin, ou
aux gens qui suivent, des travailleurs sociaux, peu importe, les gens qui accompagnent la personne. Ouais.
Alors, Mme Devilliers nous dit, le premier médicament connecté au monde est un antipsychotique. Il contient à la fois la substance active et un capteur. Le premier comprimé qu'on appelle connecté au monde, Abilify MySight, sera disponible aux États-Unis. Ça, c'est le nom du médicament. Bientôt. Ce médicament antipsychotique a été approuvé aux États-Unis par la Food and Drug Administration, ce qu'on appelle la FDA, le 13 novembre 2017. La meilleure observance du traitement par le malade, suivie en direct du patient par le médecin, importantes économies générées par les assurances santé, ça c'est un point non négligeable. Cette version numérique d'un médicament existant qui s'appelle l'aripiprazole semble présenter de nombreux avantages, mais quels en sont les enjeux éthique.
As-tu lu dans ta information justement comment c'était? Parce que le médicament, est-ce qu'il demeure dans le corps ou à chaque fois que quelqu'un en reprend un, il y a toujours le même système de connexion? Là?
Tu vas voir, mais...
Oui, je vais le voir au courant du...
Même moi, j'ai un peu de misère à suivre tout ça.
C'est tellement nouveau. Hein?
Mais on l'explique ici.
Okay.
Présenter Abilify MySight comme un médicament connecté est un raccourci pratique qui désigne une réalité bien plus complexe. Selon la notice disponible sur le site du laboratoire pharmaceutique Otsuka, le système comporte quatre éléments. Le comprimé et son marqueur d'ingestion, le patch, qui est un capteur externe, j'imagine qu'on met sur son bras,
ouais.
Sur son épaule,
ouais.
Qui détecte le signal du marqueur et envoie l'information au téléphone mobile, l'application mobile qui montre que le médicament a bien été ingéré,
okay.
Et le portail Internet pour les professionnels de la santé.
OK, c'est la personne est connectée avec des senseurs.
C'est ça, parce que le médicament parle à l'intermédiaire,
ouais.
À la patch, qui, elle, parle au téléphone.
C'est un peu comme de la réalité virtuelle, mais sans la caméra.
si tu veux, c'est
comme un GPS en fait.
Oui,
pas mal. L'application mobile doit être téléchargée avant la première prise et le patient doit suivre ses instructions lorsqu'il utilise ce système de traitement, qu'il s'agisse de la mise en place du patch ou de la prise du médicament. Le médecin prescripteur doit montrer au patient le fonctionnement du système avant qu'il puisse l'utiliser seul.
J'ai une question. Est-ce que les senseurs indiquent si le médicament est efficace ou pas, ou c'est juste que si la personne prend le médicament?
Non, tu vas voir qu'il va envoyer toutes sortes d'informations. Plus précisément, le patient avale son comprimé entier sans le couper ni le mâcher. Ce comprimé intègre un capteur qui déclenche un signal électrique lors du contact avec les sucs gastriques. Celui-ci est capté et enregistré dans le MyCity Patch qu'on doit changer une fois, c'est-à-dire toutes les semaines,
ouais.
Porté par le patient sur la partie supérieure de l'abdomen. Je pense, j'aurais pensé que c'était l'épaule, mais c'est sur la poitrine.
Parce qu'il est plus près de l'estomac, donc
j'imagine,
il connecte mieux.
Oui,
là.
Puis je pense aussi que le médicament, l'effet commence par l'estomac pour se diriger vers le corps aussi.
C'est ça.
Je ne suis pas un expert, mais je...
C'est pour ça que la réaction est enregistrée à ce moment-là, c'est
prêt. Ça a un minimum de logique.
Oui, c'est logique.
Je peux me tromper complètement, mais ça a un minimum de logique.
C'est ça. Alors, il est ensuite transmis par liaison Bluetooth à l'application mobile MySight App. La collecte de données comprend la date et l'heure d'ingestion du médicament, mais aussi son niveau d'activité. Le patient peut ajouter via l'application son état d'humeur et son nombre d'heures de sommeil. L'ensemble de ces informations soulève des craintes quant à la surveillance qui pourrait ainsi être exercée sur les patients.
Ouais.
Ça nous ramène à Big Brother.
C'est toujours ça. Les idées sont bonnes, tout ça, puis on a toujours l'impression que ça peut tomber dans des mauvaises mains. Hein,
ou avoir des dérapages absolument majeurs.
C'est ça qui est inquiétant. Hein?
On nous dit les fonctions de l'application permettant la traçabilité de l'ingestion du médicament sont les seules à avoir été approuvées par la FDA. Or, le site de la Société de médecine numérique Proteus, co-développeur du médicament, mentionne que le patch détecte et enregistre certaines données physiologiques telles que le niveau d'activité et les transmet à l'application mobile. Il existe un manque de transparence sur la nature des données de santé collectées, leur fréquence, mais aussi la finalité de leur transmission.
Oui.
Cette discrétion ne peut qu'éveiller la suspicion, notamment sur la réutilisation des données à des fins secondaires qui ne seraient pas explicitement approuvé par le patient.
Oui, un exemple, ça serait un patient prendrait de l'alcool. On est pas les gens ne sont pas supposés prendre de l'alcool, mais si c'est un verre de vin...
Là, c'est probablement que ça serait.
Tu peux pas faire de jugement. Hein, si c'est pas d'un abus, les gens sont parfaitement libres de faire ce qu'ils veulent.
Mais
aussi,
encore là, si le détecteur est capable de capter l'absorption d'alcool, il va te dire en quelle quantité. Ça ne veut pas dire que... La personne est un ivrogne nécessairement.
Non, mais le jugement. Ouais.
J'ai l'impression que la personne, ça va lui ajouter un stress.
Exactement.
Si c'est ça, hein?
Surtout pour les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale, qui souffrent souvent de paranoïa. Oui, ça va causer des problèmes, mais on est à se demander si c'est vraiment une bonne chose pour les patients qui souffrent de problèmes de santé mentale.
Alors qu'ils pourraient peut-être avoir un autre soutien qui pourrait faire en sorte qu'on s'assure que la personne... C'est un peu ça le but, là, de s'assurer que la personne
peut dire est noble.
Sa médication et qu'elle passe pas parce que ça peut causer des problèmes. Mais on va y revenir, de toute façon. C'est un sujet très intéressant, les médicaments connectés. Merci beaucoup.
Soyez branchés, déboussolés, renfermés ou éclatés, vous s'éteignez actuellement Folie douce.
J'ai le plaisir d'accueillir mon invité, Alain Labonté. Bonjour Alain.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue encore une fois à Folie douce. Tu as déjà été des nôtres et c'est un plaisir de te recevoir.
Merci.
On t'avait reçu pour le premier livre que tu as écrit, qui a eu quand même un bon succès, qui portait le titre « Une âme et sa quincaillerie ». Donc, tu avais eu l'occasion de nous parler un peu de ton vécu. Tu as vécu, on va parler de différents sujets avec toi, mais on t'a vécu la santé mentale de proche, même dès un jeune âge, en fait, avec ta mère. Je pense qu'il y avait certains problèmes.
J'avais 12 ans, la première fois qu'elle a fait une dépression profonde.
Oui. Ça t'a, comme tu avais un peu raconté l'autre fois, ça t'a ouvert les yeux peut-être sur le don de soi ou en tout cas de s'impliquer. Je pense que tu es quelqu'un qui s'implique beaucoup en société, hein, au niveau...
Oui, je m'implique beaucoup. Ce qui est intéressant, un jour, on m'a posé la question à savoir si ça avait été difficile de vivre une enfance avec la mère que j'avais eue. Et sur le coup, ça m'avait un peu refroidi comme question. Et j'avais dit à l'animatrice, j'ai dit, c'est intéressant, on ne m'a jamais demandé ça de cette façon. Mais j'ai dit, au moment où vous me posez ça, j'ai un petit film qui vient de me partir dans la tête.
Ouais.
Et j'ai le souvenir d'avoir 12 ans, d'arriver de l'école, donc de débarquer de l'autobus, aller vers la maison, et d'arriver en face de la porte de la maison, ouvrir la porte. Et derrière cette porte-là, il y avait deux bras qui s'ouvraient. Puis entre ces deux bras-là, il y avait un cœur qui s'ouvrait. Je me souviens de ça. J'ai dit, aujourd'hui, les gens de ma génération, souvent, sont monoparentales, ont les enfants une semaine sur deux. Et la semaine qu'ils les ont, parfois, ils les font garder un soir, deux soirs, trois soirs, à cause du travail, à cause d'un cocktail ou peu importe. Donc, j'ai dit, on va retourner la question autrement. J'ai dit, qui a eu la plus belle des enfances? Est-ce que c'est moi, avec une mère diminuée, qui me donnait tout l'amour qu'elle avait? Ou quelqu'un qui aujourd'hui a tout matériellement, mais dans l'absence.
Ouais.
Et à ce moment-là, ça a été particulier parce que il y a eu un long silence. Et quand on fait de la radio, les silences, on les remarque. Et au bout de 2-3 secondes, personne parlait. Et j'ai dit, ah, j'ai dit, ça me fait penser à autre chose. J'ai dit, quand j'étais jeune, j'avais très peu d'estime de moi. Et justement, quand je passais la porte de la maison, ma mère, qui m'ouvrait les bras, elle me disait toujours qu'elle m'aimait, que j'étais bon, que j'étais beau, que j'étais gentil et tout ça. Et avec elle, je me sentais quelqu'un. Et la belle histoire dans tout ça, c'est, sans le savoir, ma mère me donnait assez d'assurance pour rester debout et de la porter en même temps.
Ouais.
Donc, on est devenu un maillon nécessaire l'un à l'autre.
Ouais. Elle va très bien aujourd'hui.
Elle va bien.
Santé mentale bien équilibrée. Mais
bien entendu, elle a des suivis. Ouais. Comme nous, hein, on va chez le médecin, bon, ouais, on va chez le dentiste. Bon, c'est
des fois, on demeure plus fragile, mais d'une certaine façon, c'est un peu une force parce qu'on est peut-être plus à l'écoute de soi. Ou même l'entourage est à l'écoute de la personne.
Oui, absolument. Puis même dernièrement, je lui ai dit, il faut faire un peu de sport. Là. C'est pas parce qu'on va avoir 80 qu'il faut rester assis. Et la dernière fois, on est allé prendre une marche de 1,5 km.
Oh, ouais.
Donc, et elle avait le pas. Là,
c'est ça, mais c'est excellent. Non,
bien. Très vive, elle rit, elle va chez mes frères, chez mes sœurs. Non, c'est vraiment bien.
Pour nous amener, donc c'est une belle histoire, pour nous amener à ce que tu fais, tu t'impliques beaucoup, on va parler de différentes choses ensemble aujourd'hui, mais tu t'impliques entre autres pour chez les impatients.
Oui.
Parce que tu, dans la vie, tu t'occupes de communication, donc tu penses que c'est un peu la façon dont les impatients et toi, vous vous êtes rencontrés
oui,
peut-être?
Oui, tout à fait. En fait, moi j'ai ma boîte Alain Labonté Communication, donc principalement je fais des relations de presse, donc je suis le pont entre les médias et les individus ou les organismes, les entreprises. Et les impatients, qui est un lieu ici à Montréal où les gens aux prises avec des problèmes de santé mentale ont la possibilité de vivre des ateliers de création via la peinture, la sculpture, le dessin, la danse, le chant. Mmh. Et il y a 15 ans, ça a été mon premier client. Et ils sont toujours avec moi. Et c'est comme si ma mère, sans le savoir, m'avait amené là.
Ouais.
Parce que c'est un univers inévitablement que je connais quand même assez bien, dans lequel je suis à l'aise aussi. Et pour moi, c'est d'une évidence que je serai toujours avec eux. Si je n'y suis pas physiquement, j'y serai avec mon cœur, en tout cas. Oui. Je vais toujours faire des choses pour les aider.
Et je crois qu'en 2018, pour la Saint-Valentin, oui. les impatients font un coffret, en fait, qui a déjà été fait dans le passé, mais que...
Absolument. En fait, cette année, les impatients célèbrent 25 ans d'existence.
Oui.
Donc, puis ce qui est formidable, je tiens à le souligner, les impatients ont commencé à Montréal et aujourd'hui, on a près de 15 lieux de diffusion dans le Québec,
oui.
dont les impatients de Drummondville, les impatients de Sorel, les impatients de Joliette. Donc, c'est bien parce que je trouve que les impatients font des petits aujourd'hui parce que la santé mentale, c'est pas juste à Montréal, c'est partout.
Ouais.
Et dans le cadre des 25 ans, les gens de la Fondation ont eu l'idée de faire un dixième coffret, un coffret anniversaire, en fait. Et dans ce coffret-là, on va retrouver, je dirais, peut-être environ 70% de lettres qui ont été publiés dans les coffrets de 1 à 9. Donc, c'est un best-of, si on veut. Et cela, c'est ce que je veux dire par là, on retrouve, mettons, une lettre de Leonard Cohen, inédite, qui nous avait offert dans le cinquième coffret, je pense. On a une lettre inédite de Jacques Brel, écrite à Clairette. Vraiment, c'est un petit bijou.
C'est des lettres d'amour dans le fond.
Des lettres d'amour à son chat, son amoureux, à son pays. Le thème est toujours libre. Et il y a 30% des lettres qui sont vraiment toutes fraîches, qu'on a demandées à des gens qu'on aime beaucoup. Patrick Sénécal, Simon Boulris, Anaïs Barbeau-Lavalette.
Les gens qui veulent aider justement les impatients, parce que c'est une organisation qui, évidemment, qui aide les gens, mais qui a besoin toujours de fonds.
Tout le temps, parce qu'il y a une liste d'attente aussi.
Oui, hein? Oui.
Parce que les gens qui fréquentent les ateliers de création sont référés par un médecin, un psychiatre. Et à un moment donné, ça prend des art-thérapeutes, ça prend du papier, des crayons. Présentement, comme un peu partout ailleurs, il y a une liste d'attente et on essaie toujours d'essayer d'en trouver un petit peu plus de sous pour essayer de répondre à ces besoins-là. Parce que moi-même, pour écrire des livres ou des chansons, la création, ça libère, ça fait du bien et ça nous sauve aussi.
Absolument, absolument. C'est un exutoire. Puis ça,
absolument.
Je veux parler d'une autre... une implication intéressante, en fait, tu t'impliques par rapport au protocole sur la pratique des électrochocs au Québec. Ça fait toujours un peu sursauter quand on entend parler des électrochocs.
Ouais.
Tu as été approché, je pense, suite à ton livre où tu en parlais. Ta mère avait eu comme l'expérience de vivre certaines sessions d'électrochocs.
En fait, quand j'ai publié le premier livre, ouais. Une âme et sa quincaillerie, il y a un chapitre qui est consacré à ma mère.
Ouais.
Donc, je parle du fait qu'elle a eu des électrochocs. Et suite à ça, il y a beaucoup de gens qui ont réagi, qui m'ont écrit sur les réseaux sociaux, mon courriel ou même qui m'ont appelé. Et les gens étaient très, très gentils. Ce qui ressortait de ça, c'était surtout la stupéfaction du fait que la pratique des électrochocs existe encore,
ouais.
En 2018.
Ouais. En c'est quelque chose d'une autre époque.
Oui, hein, et comme je discutais à un moment donné avec le docteur David Bloom de l'Institut Douglas, je lui demandais comment se fait-il que les gens me posent cette question-là. Et il m'avait dit, Alain, vous savez, depuis « Vol au-dessus d'un nid de coucou » ou « L'histoire d'Alice Robbie », dans la littérature francophone, très peu de gens ont parlé des électrochocs. Et il dit, dans votre livre, en plus, vous en parlez d'une façon positive,
ouais.
Et d'une façon que ça l'a sauvé votre mère. Et aussi, vous parlez de votre mère avec tellement d'amour que sûrement c'est la raison pour laquelle personne a jugé ou a lancé des pierres. Au contraire, ouais. Les gens cherchaient à comprendre. Et je trouve ça vraiment super que cet ouvrage-là ait éveillé des consciences.
Ouais. Et ton implication, donc tu participes à la réflexion?
Oui,
c'est un peu
en
ça.
Fait, c'est le CEECTQ,
ouais.
Donc le Centre d'excellence en électroconvulsivothérapie du Québec, qui est un centre d'études et d'expertise au niveau de l'ECT, donc les électrochocs, et qui a pour mission de contribuer à une meilleure croissance et à l'implantation des meilleures pratiques au Québec. Donc, actuellement, au Québec, il y a 42 institutions qui offrent ce service-là. Ouais. Donc, ce qu'on veut faire, c'est essayer de répertorier à travers ces 42 institutions-là des bases de données pour qu'on ait des procédures qui soient pareilles partout et qu'à partir de ça, on puisse, nous, aller plus loin dans la recherche, qu'on ait quand même un baromètre sur quoi s'appuyer. Et on est venu me demander si j'accepterais, avec des psychiatres et des médecins, de représenter les familles, en fait, parce qu'à cause que ma mère a eu des électrochocs.
Ouais.
Et bien entendu, j'ai dit oui avec plaisir. Ça peut faire avancer les
ouais.
choses.
C'est sûr que ça l'a... on parle à certaines personnes puis ils trouvent ça épouvantable de faire des électrochocs. Donc, il y a quelque chose de difficile à vendre dans ce côté-là. Mais en même temps, si les gens veulent s'organiser...
Hein? Mais moi, je ne trouve pas ça difficile.
Non,
parce que souvent... Quand on juge, on est dans l'ignorance. Et je trouve que ce thème-là est assez facile pour moi à développer parce que si on se réfère à il y a 50 ans, il n'y avait pas d'anesthésie, c'était vraiment pas les mêmes procédures. Aujourd'hui, il y a de l'anesthésie, il y a de l'accompagnement, c'est une autre histoire. Et j'ai l'impression que c'est ce bout-là que moi, quand je prends la parole, ou que ce soit un psychiatre, peu importe, ouais. qu'on a juste à expliquer. Et je suis témoin, moi, d'une mère qui va bien.
Ça l'a aidé donc, dans son cas. Ai... C'est pas oui. fait pour tout le monde, mais pour certaines personnes, peut-être c'est ça que ça prend.
Parce que ma mère, quand elle fait des dépressions profondes, elle est dans un état végétatif. Donc, elle ne voit plus, elle ne parle plus, elle ne marche plus. Donc, à un moment, il faut trouver une solution. Et ça a été... On n'avait pas d'autre solution. En fait, et ça a marché.
Et ça a marché, donc, heureusement, effectivement.
Oui.
Donc, c'est, on prévoit faire quoi? Donc, c'est un processus qui va durer un certain nombre de semaines, de mois?
Bien entendu, c'est un travail à long terme.
Ouais.
Parce qu'après ça, il faut le présenter pour que le gouvernement embarque dans ce processus-là.
Ouais.
Mais l'important, je pense, que c'est de se réunir, de s'impliquer et de faire avancer les choses.
Ouais.
Comme je disais tantôt, d'éveiller les consciences ouais. et on verra.
Il nous reste une minute et demie environ
oui.
de temps. Tu prépares un autre ouvrage écrit. Tu as écrit ton premier... C'était un de tes buts dans la vie. Je me souviens, tu nous avais dit, dans la vie, je veux, entre autres, tu nous avais libéré différentes choses, dont écrire un livre. Mais là,
oui,
ça te donnait le goût d'en écrire un deuxième. Donc, sur la santé mentale, il va parler de quoi?
En fait, ça va être mon troisième.
Ton troisième,
en trois ans.
Okay.
Le titre, ça va être « Un jour, ma tête a plié les genoux
okay. ».
Donc, ce sont 12 portraits en santé mentale. C'est une coécriture avec mon amie Florence Menet. Et les sujets... les personnes qu'on va chercher dans cet ouvrage-là, ce sont des gens qui ont eu des problèmes de santé mentale, mais qui les ont peut-être encore, mais qui ont trouvé une façon de s'accrocher à la vie. Donc, à travers ces problèmes-là, c'est important pour nous qu'on ressorte le côté lumineux des choses.
Ouais. Pour te joindre, pour en savoir plus sur ce que tu fais, pour communiquer avec toi, pour avoir accès à tes services, je sais pas, en communication, on va sur ton site web, je me dis.
Oui, Alain Labonté Communication, ou on peut venir me rejoindre sur Facebook.
Donc,
Alain Labonté.
Cherche ça, puis
oui,
on va
oui, j'apparais un petit peu n'importe où.
C'est ça. C'est excellent. Merci beaucoup, Alain. On pourra poursuivre éventuellement, peut-être pour avoir un peu des développements sur toutes tes implications. Merci beaucoup.
Merci.
Et bonne journée.
Merci.
À la prochaine. Au revoir.
Les mains consument, acteurs, reflets. connaître et communiquer avec nous, visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca.
Nous poursuivons à Folie douce au micro avec le sujet entamé, les médicaments connectés. C'était très intéressant, Pierre, ce que tu nous as apporté plus tôt.
Je te remercie beaucoup. Oui, c'était un article écrit par Mme Nathalie Devilliers, qui est professeure de droit à Grenoble. Oui, les médicaments connectés, en fait, c'est des médicaments qu'on pourrait appeler des médicaments intelligents.
Ouais.
Parce qu'on avale le médicament, puis le médicament envoie des...
connecte avec un transmetteur qui, lui, connecte avec un téléphone intelligent.
Oh, c'est un affrontement entre la santé publique des gens et le doigt, la vie privée.
Exactement, oui. Mme Devilliers nous dit que le patient doit être clairement informé du fonctionnement du dispositif, mais aussi de la collecte opérée sur ses données de santé qualifiées de, entre guillemets, sensibles sur le plan juridique. Le choix d'un tel traitement doit par ailleurs rester volontaire. Si la compagnie Alibify MySight devait être autorisée par la suite en France, le consentement libre et éclairé devrait être recueilli par écrit par le médecin et comporter la liste des personnes habilitées à accéder à ces données. Ici, le patient peut approuver l'accès à 5 personnes telles que les membres de la famille et le médecin prescripteur. Le patient peut supprimer cet accès à des tiers à tout moment via son application mobile.
Il y aurait aussi, faut que ça soit volontaire pour pas cibler des populations spécifiques parce que tu peux forcer des gens à prendre des médicaments et les suivre.
Ben, c'est ça, il faut le faire dans certains cas, Justin.
Oui, pas prendre comme on a fait à l'époque, stériliser les Amérindiens. Tu choisis un groupe de personnes puis tu leur forces à prendre des médicaments.
Non, médicaments, aujourd'hui, tout ce qui est là, je pense que ça serait comme trop connu. Ça serait connu.
Ben oui,
ça serait inaccessible.
Ou une population itinérante.
Toi, tu vois comme une population ethnique, tu veux dire?
Même une population itinérante,
tu forces à prendre des médicaments, qu'il n'y ait pas de choix. Il faut vraiment que la personne ait un choix.
Je pense que dans certains cas, oui. Mais tu dois, en fait, on devrait dire tu dois les convaincre.
Un consentement volontaire, ouais, c'est ça. Je veux dire, au lieu de choisir un groupe de personnes, puis on leur donne sans qu'ils consentent volontairement. Ouais.
Mais Mme Devilliers nous dit, le patient, comme je disais, peut supprimer cet accès à des personnes de la famille, mais dans un tel cas, la technologie n'a plus aucune utilité parce que son intérêt, c'est justement de partager des données.
Ben, ça peut être uniquement partagé par le
médecin et
le médecin,
la personne.
Oui, mais des fois, c'est... médicalement compétentes.
Oui, mais des personnes qui ont des personnes de santé mentale, c'est important que la famille le sache aussi.
Parce qu'avant qu'on entre pour se bloquer en onde, c'est ça, on se disait ça, dans le fond, si la personne peut être alertée, peut-être qu'elle peut venir aider, réconforter ou venir dire, ben, y a-t-il un problème?
Ou amener la personne malade
à la clinique, voir son médecin
et dire il prend plus ses médicaments.
Ça devient préventif quand c'est bien utilisé. Ouais. C'est ça, c'est un bon côté.
Donc, Mme Devilliers nous dit, à qui est prescrit ordinairement l'aripiprazole? Ce médicament est destiné à des patients souffrant de dépression sévère, à des personnes schizophrènes et des personnes atteintes de troubles bipolaires de type 1, anciennement connus sous le nom de psychose maniaco-dépressive. Ces maladies peuvent s'accompagner de fortes angoisses, d'idées délirantes impliquant, entre autres, le sentiment d'être épié et surveillé. Imagine-toi. Alors, on parle ici d'un cachet, c'est-à-dire d'un médicament qui envoie en quelque sorte des signaux depuis l'intérieur du corps. L'idée d'ingérer un tel « mouchard », entre guillemets, peut ainsi faire écho chez certains patients à leur propre tourment.
Un « stool », comme on dit.
Exactement, oui. De plus, pour l'ensemble des patients concernés, le fait que la prise du comprimé puisse être contrôlée en direct par leur médecin peut être vécu comme une forme de pression psychologique à suivre le traitement.
C'est ça.
Ce que c'est, en fait, oui, mais on doit le faire.
C'est pour ça qu'il faut que la personne soit consentante,
et
les bénéfices de ça, il faut qu'elle soit au courant.
Est-ce que ça marque aussi les effets secondaires ou seulement la prise?
Je ne pense pas qu'on parle d'effets secondaires.
Parce que ça peut être un gros problème, ce médicament-là peut...
Il n'y a sûrement pas d'effets secondaires dans le sens que c'est une connexion qui se fait.
Le médicament.
Ah, le médicament, mais si la personne prend déjà un médicament, je me demande si ça doit être jumelé avec, je ne sais pas jusqu'à quel point.
Tout amène le point, Justin, qu'il y a beaucoup de médicaments qui provoquent beaucoup d'effets secondaires.
C'est marqué dans le test, c'est des tremblements.
Ça, je ne pourrais pas te le dire.
Grave, parce que c'est là que les gens peuvent vouloir abandonner leur médicament.
Non, c'est sûr.
Alors, si je vais plus loin dans l'article, Par ailleurs, le fait qu'aux États-Unis, les assureurs encouragent l'utilisation de ce système par un meilleur remboursement pose lui aussi une question. Le consentement du patient peut-il être considéré comme libre et éclairé dans de telles conditions? Enfin, l'acceptation du médicament connecté ne doit pas non plus devenir une condition pour la sortie de l'établissement psychiatrique, voire pénitentiaire dans certains cas, ouais. Et encore moins pour accéder à un emploi, autant d'utilisation potentielle problématique.
Oui, et pas être forcé non plus par la compagnie d'assurance de le prendre pour te payer tes médicaments.
Mais ils peuvent t'inciter à le faire.
Parce que dans le fond, ça permet de ne pas peut-être être réhospitalisé, donc ouais. Ça coûte moins cher, mais... on contrôle les coûts, oui. Là, c'est ça.
Ouais. Ben, c'est parce que c'est un système d'assurance, ça peut coûter cher aussi, oui. Pour les gens, puis c'est un contrôle.
Il ne faut pas que l'argent amène dans ce cas-là.
C'est ça. Le consentement est devenu une question problématique, en particulier dans le domaine des applications mobiles, y compris de santé, et dans celui des réseaux sociaux. L'information délivrée à l'usager apparaît en petits caractères sur nos téléphones mobiles, parfois sans réelle alternative ou refus pur et simple. Le procédé consistant à recueillir un consentement sur ce support numérique mène souvent l'usager à un clic immédiat sans avoir pris le temps de faire un choix éclairé. L'entrée en vigueur prochaine du règlement européen sur la protection des données à caractère personnel devrait corriger ce déséquilibre. Alors, je vais m'arrêter ici.
Oui, on peut quand même chercher, je pense, peut-être tu nous rappelles le titre de l'article, oui, et l'auteur, l'article, si on veut lire au complet.
Oui, hein. Le titre de l'article est « Médicaments connectés, qui a demandé le consentement du patient? » Et j'ai l'impression qu'on n'a pas fini
de parler. Ouais, c'est de
écrit par Mme Nathalie Devilly.
Ben voilà, merci beaucoup pour ton sujet. Donc, les médicaments connectés, merci Justine également.
Merci.
vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux, branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. Antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
Nous allons maintenant conclure ce rendez-vous de Folie douce avec la nomenclature des chansons. Je te la mets à l'eau, on va pouvoir faire ça ensemble. Donc, on écoutait en début d'émission Lumière bleue.
De Nour.
Là, on a pu entendre Crier tout bas.
De Cœur de pirate.
Oui, dans la deuxième demi de l'émission, on a écouté Pyromane.
De Audrey Jung ou Jungle, choisissez.
Et à l'instant, on écoutait Longtemps.
De Mauve.
Ben voilà, merci beaucoup pour votre choix musical. Merci également, Pierre, pour la mise en onde et tes blocs Espresso et Espresso Longé.
Bienvenue.
Oui, alors dans tes blocs, tu nous as parlé des médicaments connectés. On a appris plein de choses. C'est encore une fois la technologie.
On est dans le futur.
Dans le futur, ça avance beaucoup. C'est toujours le côté éthique. Il faut faire attention, mais c'est intéressant comme sujet. Je remercie notre invitée en début d'émission, Anne-Marie Boucher, du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec, qui nous a bien expliqué ce que fait cette organisation-là. On a eu également, en début de deuxième demi, notre invité Alain Labonté, qui nous a parlé pour sa part de son implication au niveau des impatients, différents sujets de santé mentale. Donc, ça a été fort intéressant. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine et à la prochaine Folie douce. Au revoir. Pop, 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 pop